Territoires d'Info, une revue hebdomadaire de l'actualité des assemblées territoriales et municipales des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Territoires d'Info par Thomas Etier.
Bonjour, ici Thomas Etier, journaliste IJL. Bienvenue à Territoires d'Info, votre émission hebdomadaire qui couvre l'actualité des territoires. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. C'est dans un contexte très particulier, dû notamment à la crise pandémique des derniers mois, qu'avait lieu cette semaine le discours du trône de la gouverneure générale du Canada en ouverture de la prochaine session parlementaire. J'en ai discuté avec la première ministre Caroline Cochrane et le député fédéral des TNO, Michael McLeod. De nouvelles options ont été présentées au conseil municipal de Yellowknife cette semaine par le GTNO afin d'être en mesure de mettre en place un centre de jour temporaire qui devra accueillir les personnes sans-abri de la capitale avant l'arrivée du temps froid. C'est confirmé, Radio Taïga et le journal L'Aquilon seront officiellement réunis au sein d'un seul et même organisme sans but lucratif, Média Ténois. J'en ai discuté avec notre collaborateur de Radio-Canada, Mario De Ciccio. Ma collègue Cécile-Antoine Maisonnade nous parle cette semaine d'un plan quinquennal de développement en santé de la petite enfance francophone qui a été dévoilé par un comité formé de 5 associations francophones du territoire. Et finalement, pour le segment Zone Arctique, ma collègue Nelly Guidici nous parle cette semaine de la langue Inuktitut. Aux yeux de la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, les principales priorités du territoire ont reçu la place qui leur revenait dans le discours du trône qui a été prononcé le 23 septembre par la gouverneure générale du Canada, Julie Payette.
Pour renforcer les communautés encore davantage, le gouvernement investira dans tous les types d'infrastructures au cours des 2 prochaines années. Il investira dans le transport en commun, les rénovations éco-énergétiques, l'énergie propre, le service à large bande en milieu rural et le logement abordable, en particulier pour les peuples autochtones et les communautés du Nord.
C'est avec ces paroles intercalées dans un discours d'une heure environ qu'était mise en branle la prochaine session parlementaire à Ottawa. Questionnée quelques minutes après le discours du trône, Caroline Cochrane s'est dite satisfaite qu'on y ait clairement reconnu que les collectivités du Nord vivent des enjeux qui leur sont propres. Selon elle, Ottawa a bien entendu les revendications des TNO.
Council Federation All Premier's Table was brought up, and specifically some of the issues that I've been talking about throughout the term.
La plupart des enjeux que j'ai soulevés au Conseil de la Fédération ont été clairement mis de l'avant, a-t-elle affirmé. Le Conseil de la Fédération rassemble les premiers ministres des territoires et provinces du Canada. La première ministre compte aussi s'enquérir de ses paroles lors de ses prochaines discussions avec Ottawa pour rappeler ses engagements envers les territoires.
Those things will be top of mind when we meet with the Prime Minister in our next meeting. So he's put it out there, and we'll be making sure that we continue to lobby for the Northwest Territories so that they recognize that we're not even in the same place. We still have huge opportunity gaps. But like I said, he's pointed out that the North does need to be looked at. So it does give us a window to actually move in that direction.
Une fenêtre d'opportunité, donc, pour aller de l'avant avec le fédéral, ce sont les termes qu'a employé la première ministre Caroline Cochrane, qui assure que le GTNO va poursuivre ses efforts de lobbying pour les TNO afin qu'Ottawa reconnaisse qu'on n'y vit pas du tout les mêmes réalités qu'ailleurs au pays. Le GTNO et les territoires négocient actuellement les termes selon lesquels sera distribuée la prochaine enveloppe financière au nord du pays. Madame Cochrane dit avoir espoir que le financement répondra aux exigences spécifiques des territoires, comme ce fut le cas à ses yeux pour l'appui financier reçu au cours des derniers mois.
That northern package is only specific to the 3 northern territories. Again, that shows the commitment of premiers across Canada who actually put that in the notes and said that they all recognize that the North needs to have a special help and by our federal government who is who is coming to the table and being willing to talk about it.
Madame Cochrane souligne ici que l'enveloppe qui sera reçue sera spécifique au Nord. Donc, les territoires, les trois territoires recevront une enveloppe d'aide financière qui leur est spécialement dédiée, ce qui démontre à ses yeux l'engagement des premiers ministres de l'ensemble du pays qui ont tous reconnu que le Nord a besoin d'une aide spéciale du gouvernement fédéral qui lui-même était présent à table et prêt à discuter en ce sens. Selon Mme Cochrane, les détails entourant cette prochaine aide financière du fédéral au territoire devraient être dévoilés dans les prochaines semaines. La première ministre a toutefois relevé qu'il n'a pas été mention du cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada dans ce discours du trône. Nous y avons consacré beaucoup de temps lors de la précédente Assemblée législative. Si je devais souligner un manque, ce serait sur ce plan, a-t-elle indiqué, en ajoutant que le GTNO compte faire du lobbying en ce sens au cours de la prochaine année. Le cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada vise à aider les gens et les collectivités à travailler ensemble pour créer une région dynamique, prospère et durable, comme l'indique Relations Couronne Autochtone et Affaires du Nord du Canada sur son site Web. Le député fédéral des TNO, Michael McLeod, a indiqué à Radio Taïga que, bien que le projet ait été mis sur pause à cause de la pandémie, il s'agit d'un engagement qui a été pris par le gouvernement fédéral et qu'on entend aller de l'avant avec ce cadre stratégique.
There's a lot of things that are going to be happening over this coming winter.
Il se passera beaucoup de choses cet hiver. C'est le député fédéral des TNO, Michael McLeod, qui nous l'a affirmé au lendemain du discours du trône. En entrevue avec Radio Taïga, le député libéral s'est dit heureux que son gouvernement ait soulevé les principaux enjeux propres aux collectivités du nord du territoire pour traverser la crise pandémique et mettre la table à de véritables changements. Monsieur McLeod a rappelé les engagements de son gouvernement à assurer la sécurité alimentaire dans les collectivités, à y renforcer les chaînes d'approvisionnement locales, à investir dans les transports en commun, dans les rénovations liées à l'efficacité énergétique et aux énergies propres également, des investissements pour l'Internet rapide dans les collectivités, pour des logements abordables. M. McLeod a également souligné les engagements du gouvernement fédéral pour la mise sur pied d'un système pan-canadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Bref, plusieurs des choses que M. McLeod dit avoir mis de l'avant dans le cadre de son mandat ont été mentionnées dans le discours du trône. Il reconnaît toutefois que le tout reste à mettre sur pied.
We got to remember that the throne speech is not a budget. We will see more detail in the economic response plan that will be presented this fall. You know, that will include and outline the government's economic and fiscal position. It will provide fiscal projections and set out new measures to implement things that were in this throne speech.
Le discours du trône n'est pas un budget, rappelle M. McLeod. Plusieurs détails doivent encore être dévoilés en ce qui a trait au plan de réponse économique qui sera présenté cet automne et qui inclura une position fiscale du gouvernement ainsi que des projections fiscales et des nouvelles mesures pour implanter les éléments inclus dans le discours du trône. Bref, près de 6 mois après le début de la crise pandémique et à force d'adaptation, le gouvernement serait prêt à aller de l'avant et à faire bouger les choses.
An important piece for the indigenous people will be the United Nations Declaration, and there's an intention to move forward on that fairly quick. So there's a lot of things that are going to be happening over this coming winter.
Comme le souligne M. McLeod, l'un des points importants pour les peuples autochtones, c'est la déclaration des Nations Unies. Ottawa a l'intention d'aller de l'avant très rapidement, assure-t-il, en déclarant qu'il se passera beaucoup de choses au courant de l'hiver.
A virtual type parliament, and we are working out a mechanism to vote, and our committees are going to be back at work. I think the work will start on a number of different issues across the board, and the Arctic policy will be one of them. So I'm hoping that we're going to see some results soon.
Je pense que maintenant que nous sommes de retour au Parlement de façon virtuelle et que nous élaborons un mécanisme de vote, nos comités seront de retour au travail, affirme le député fédéral des TNO, Michael McLeod. Le travail sera entamé sur plusieurs plans. Les politiques de l'Arctique en font partie. Et j'espère que nous verrons bientôt des résultats. La saison froide approche à grands pas. Le centre de jour de Yellowknife qui accueille les personnes sans-abri doit fonctionner à capacité réduite en raison des règles d'éloignement physique. Le gouvernement des TNO a présenté de nouvelles options pour l'établissement d'un centre de jour temporaire dans la capitale. La représentante du ministère de la Santé et des Services sociaux, Sarah Chorotowski, a détaillé les suggestions au conseil municipal qui devra approuver le lieu qui sera désigné pour accueillir les personnes sans-abri jusqu'au 1er mars 2021.
We really appreciate how collaborative the Department of Health, GNWT, has been in working with the city on the issue of the temporary day shelter that we all know is an issue that we need to seek to resolve before the temperatures get colder.
Comme l'indique l'administratrice municipale, Sheila Bessie Kellett, le but de ce processus est de trouver une solution avant la période de grand froid. Les conseillers ont ainsi pris connaissance des lieux désignés comme potentiellement exploitables afin de déterminer quelles options doivent être éliminées avant que le gouvernement territorial ne poursuive les démarches. L'option d'un des édifices du campus de Yellowknife du Collège Aurora s'est particulièrement démarquée aux yeux des conseillers qui ont tous exprimé leur intérêt. Il s'agit de la salle située sur l'avenue Franklin, près de la Légion canadienne. Plusieurs ont souligné que l'édifice se trouve à proximité adéquate du centre-ville, dans un secteur qui est également adéquat, et qu'il comporte plusieurs éléments permettant une gestion efficace de l'achalandage du centre. L'édifice HR Block, situé sur la 47e Avenue, a également été approuvé par certains conseillers. Il s'agit toutefois d'un édifice privé et le GTNO doit encore obtenir l'approbation du propriétaire. Le salon de quai de Yellowknife, situé à l'angle de la 51e rue et la 52e avenue, a également été désigné parmi les possibilités. Les édifices municipaux inclus dans la liste, soit la bibliothèque municipale et la salle de sport D&D Gym au centre multiplex, ont été rejetés par une majorité des conseillers. Selon la mairesse Rebecca Alty, il est préférable que ces lieux demeurent entièrement à la disposition des résidents durant la pandémie.
City facilities, I'm not supportive of because I think the library should remain open and the library meeting room as well is an activity is a room where we can provide activities during COVID times and it's a place that people can rent the space. I know the Islamic Association had been using it for their prayers. And the D&D gym is also quite an important community asset, especially during the time of COVID. We want to make sure that residents are able to get out and stay active.
Comme l'indique la mairesse de Yellowknife, Rebecca Alty, la salle de réunion de la bibliothèque est un lieu de rassemblement important. On pourrait organiser des activités dans les prochaines semaines et louer l'espace. Pour ce qui est de la salle de sport D&D Gym, il s'agit aussi à ses yeux d'un lieu important pour les résidents à qui on doit en assurer l'accès. Le GTNO suggère également d'utiliser certains terrains de stationnement où pourrait être construite une structure temporaire. Le stationnement du centre d'information touristique situé à côté de l'hôtel de ville a suscité l'intérêt de certains conseillers puisqu'il se trouve à proximité du centre-ville. Plusieurs conseillers ont souligné l'importance de la proximité du centre-ville dans le choix du lieu qui accueillera ce centre de jour temporaire. Il importe pour eux que les utilisateurs du centre puissent y accéder facilement, tout comme aux autres ressources qui sont mises à leur disposition et qui se trouvent également au centre-ville.
A lot of structures downtown that are suited perfectly for this. I don't ever want to see our vulnerable population anywhere other than downtown because at least we know that A, they're there. B, we can see where assistance is needed. We can see the goings on. I don't ever want to see our vulnerable population being pushed to the side because they are parts of our community.
On entend ici la conseillère Stacy Smith qui indique qu'elle ne veut pas voir les sans-abri ailleurs qu'au centre-ville puisqu'il est important qu'ils y demeurent afin qu'ils aient accès aux ressources nécessaires. Il importe pour elle qu'on ne les pousse pas en dehors de ce secteur. Les conseillers ont étudié des options près d'un mois après avoir rejeté la proposition d'installer ce centre de jour à l'angle de la 50e rue et de la 49e avenue dans l'édifice qui abritait auparavant le centre jeunesse Side Door. Les propriétaires de commerces environnants s'y sont notamment opposés, craignant que l'achalandage de personnes itinérantes dans le voisinage n'affecte leurs activités commerciales ainsi que la sécurité du secteur. C'est fait, la fusion est en branle. Les membres de L'Aquilon et de Radio-Taga ont accepté à l'unanimité mardi soir la fusion administrative des deux médias francophones, de ces deux médias des territoires du Nord-Ouest. Évidemment, les journalistes de L'Aquilon et de Radio-Taga sont directement concernés par cette nouvelle. On en parle donc avec notre collaborateur externe Mario De Ciccio de Radio-Canada. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Ben, ça fait plaisir.
Donc, Mario, pas de surprise, les deux médias deviendront officiellement un seul et même organisme en janvier 2021.
Oui, bon, vous l'avez dit, là, c'était à prévoir. À chaque rencontre avec la communauté au cours des dernières années, ça paraissait toujours comme une évidence, là, la fusion entre les deux organismes. Mais il fallait quand même que ce soit accepté en Assemblée générale. Bon, pour comprendre cette fusion-là, il faut quand même expliquer le fonctionnement des choses en ce moment. Le journal et la radio francophone, en fait, bon, les éditions franco-ténoises L'Aquilon et la société Radio Taïga ont la même direction, les mêmes équipes et les mêmes membres de conseil d'administration depuis quelques années déjà, mais restent pour l'instant deux organismes légalement et financièrement distincts. Ça veut dire deux AGA, deux assurances à payer, deux états financiers à payer aussi, bref, un dédoublement de certains travails administratifs. C'est ça qui avait mené l'an dernier, ou voilà un peu plus d'un an, le CA à vouloir étudier la question d'une fusion. De là, bon, dans la dernière année, un consultant indépendant avait étudié le dossier, avait révélé, après avoir examiné les risques, les avantages et tout ça, qu'une fusion serait positive et serait bénéfique pour les deux organismes. En fait, bon, on dit que ça pourrait faire économiser annuellement plus de 3 000 $ et environ 2 semaines de travail pour la direction. Bref, pour tout le monde, c'était une évidence, la fusion. Le CA en avait fait la recommandation. Et bon, mardi, dans les deux assemblées générales annuelles, personne ne s'y est opposé.
Donc, c'est oui, un vote à l'unanimité. Donc, les deux organismes deviendront Média Ténois dès janvier 2021.
Ouais, exactement. Les membres, bon, à l'Assemblée législative, à l'Assemblée générale annuelle, je fais trop de politique territoriale ces temps-ci, ont accepté le nom Média Ténois. Là, c'était vraiment le nom qui était ressorti le plus souvent là, des consultations faites par le CA. Donc, bon, je vous épargne un peu les détails administratifs, mais dans le fond, comme c'est important que Radio Taïga garde sa licence du CRTC, l'organisme doit rester présent, doit rester un organisme. Donc, c'est L'Aquilon, en fait, qui cède ses actifs à la société Radio Taïga, qui, elle, changera de nom pour Média Ténois dès janvier 2021.
Donc, beaucoup de changements. Ça demeure les médias ne changent pas comme tels ou vont être améliorés là, au fil des décisions de la direction. Lors de l'AGA, les membres ont également eu à élire un nouveau CA.
Ouais, exactement. Et bon, vous l'avez dit, beaucoup de changements. Et ça aussi, ce nouveau CA-là, ça risque d'apporter un peu de changement dans l'organisme parce que, bon, quatre des cinq membres du CA ne se représentaient pas. Et en Assemblée générale annuelle, on a élu trois administrateurs qui viennent de Hay River et de Fort Smith. Donc, en fait, deux de Hay River et un de Fort Smith. Donc, en tout, ça fait une majorité qui vient du South Slave. Et ça fait un peu partie de la volonté de l'organisme de mieux s'implanter aussi dans le South Slave. C'est ce que la présidente sortante, Sylvie Francoeur, me disait. Donc, on espère qu'avec ça, les médias ténois vont être capables de se développer peut-être plus facilement dans le South Slave, parce que ça reste deux médias qui ne sont pas des médias de Yellowknife, mais qui sont des médias pour l'ensemble des territoires du Nord-Ouest. Donc, bon, on me dit que c'est des beaux changements à venir. Et je vous dirais que, en fait, la majorité, l'ensemble des gens qui étaient là en Assemblée générale annuelle se réjouissaient vraiment de ces changements-là, autant la fusion que ce développement un peu dans le South Slave.
Très bien. Mario De Ciccio de Radio-Canada, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se reparle très bientôt.
Toujours un plaisir.
On assistait cette semaine au dévoilement d'un plan de développement en santé de la petite enfance francophone au TNO. C'est un plan qui va s'échelonner sur 5 ans, de 2020 à 2025. Ma collègue du journal L'Aquilon, Cécile-Antoine Maisonnade, est avec nous pour nous en parler. Bonjour Cécile.
Bonjour Thomas.
Cécile, qu'est-ce qu'on trouve dans ce plan-là exactement?
Alors, donc en fait, c'est un plan qui a été formulé par un comité constitué de 5 instances des TNO. Font partie de ce comité le Collège nordique francophone, la Commission scolaire francophone des TNO, le Conseil de développement économique des TNO, la garderie Plein Soleil et enfin le réseau TNO Santé de la Fédération franco-ténoise. Donc ce plan, en fait, il est là pour répondre au mieux aux besoins en services de santé et d'éducation dans la région, donc des TNO. Donc il y a un état de la situation, il y a le résultat de consultations qui ont été faites dans l'année, et puis ensuite une vision sur le long terme, en fait, de tout ce qui pourrait être fait en matière de petite enfance.
Tout ça dans le contexte, Cécile, où il faut le dire, au territoire du Nord-Ouest, il n'y a qu'une seule garderie francophone, là, vraiment sur tout le territoire.
Oui, effectivement. Donc il n'y a que, en fait, la garderie Plein Soleil à Yellowknife qui a été créée en 1999. Donc c'est un organisme à but non lucratif qui est situé dans les locaux de l'école Alain Saint-Cyr. Dans le rapport, on peut voir différents chiffres un peu alarmants sur la situation de la petite enfance dans ce secteur-là. C'est que, par exemple, au 30 septembre de l'année passée, donc en 2019, la garderie Plein Soleil est comptée 38 enfants, donc 95% de sa capacité, et 34 enfants qui étaient inscrits sur liste d'attente. Donc, il y a en plus de ce... Il faut quand même noter qu'en plus de cette garderie, il y a aussi 3 services de garde réglementés, donc en milieu familial. Et chaque famille, chaque service de garde peut accueillir 6 enfants chacune. Donc ça élève, là je rentre dans des chiffres un peu complexes, mais ça élève à 56 le nombre de jeunes francophones qui sont gardés de manière réglementée. Et ce qui est finalement une toute petite partie du nombre d'enfants qui pourraient bénéficier de ces services de garderie. C'est pour ça que dans le plan, donc dans ce plan quinquennal, on essaye de voir comment on pourrait avoir une garderie dans la région du Slave Sud, donc à Hay River par exemple, parce qu'à Hay River, ils n'ont aucun service de garderie réglementé.
En bref, on parle de l'ensemble du territoire, mais les besoins sont essentiellement concentrés autour du Slave Sud.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a vraiment un manque cruel de structures d'accueil en petite enfance dans le Slave Sud. Et donc le plan étudie en fait la possibilité que d'ici mars 2020, il y ait une étude de faisabilité qui soit réalisée et que 5 années plus tard, selon les résultats, pouvoir travailler à l'ouverture d'un centre de garderie.
Cécile Antoine Maisonnade du journal L'Aquilon, merci beaucoup.
Merci Thomas.
Ici Nelly Guidici pour Zone Arctique. Cette semaine, nous allons aborder la situation de l'Inuktitut et sa transmission à travers les générations. Charmaine Okatsiak a reçu un prix de littératie remis par le Conseil de la Fédération en reconnaissance de son travail pour la revitalisation de la langue Inuktitut dans sa communauté de Wankin Inlet au Nunavut, sur la côte nord-ouest de la baie d'Hudson. Passionnée par sa langue maternelle, elle a cependant décidé de privilégier l'anglais comme langue de communication durant son enfance, car c'était la langue que tout le monde privilégiait autour d'elle. À l'âge adulte, alors qu'elle a remarqué que certains adultes avaient de la difficulté à communiquer, elle décide de mettre en place un projet de revitalisation de la langue à travers des ateliers. D'une durée de 5 semaines et animés par des personnes aînées, ces ateliers se font en extérieur au contact de la culture traditionnelle, comme la cuisson de la viande sur le feu ou encore le travail de la peau ou de la fourrure de caribou. Pour le chercheur en anthropologie de l'Université Laval à Québec, M. Louis-Jacques Doré, l'important est que l'apprentissage de la langue soit connecté aux gestes de la culture traditionnelle issue autrefois du quotidien des personnes aînées.
L'important, c'est que justement l'apprentissage de la langue se fasse en même temps que l'apprentissage de techniques, l'apprentissage de façons de faire liées à la vie sur le territoire. Et là, ça peut intéresser les jeunes.
L'Inuktitut n'est pas enseigné comme langue première dans les écoles primaires et secondaires du Nunavut. Et un fossé s'est créé entre les générations qui ne parviennent plus à communiquer.
Moi, mon opinion, c'est que tant que la langue ne sera pas enseignée comme première langue à l'école jusqu'à la fin du secondaire, ça risque, les programmes risquent de ne pas avoir vraiment d'effet. C'est intéressant de voir, le gouvernement du Nunavut avait, il y a une dizaine d'années, je pense, avait fait un plan de développement de l'enseignement où il disait qu'en 2019, l'enseignement devait être en Inuktitut, première langue, jusqu'à la 9e année, je pense. Et l'an dernier, en 2019, c'était pas du tout le cas. Et le gouvernement a dit, ben dans ce cas-là, on reporte ça en 2039. Et là, en 2039, ce ne sera pas seulement jusqu'à la 9e, mais en 2039, donc dans 19 ans maintenant, l'enseignement devra se faire en Inuktitut jusqu'à la 12e année, l'Inuktitut première langue. Et pourquoi on n'avait pas pu le faire en 2019? C'est parce qu'il y avait un manque de professeurs qui pouvaient enseigner l'Inuktitut, donc de professeurs inuits. Il en aurait fallu l'an dernier, je pense, une bonne centaine de plus que le nombre de professeurs qu'on avait. Donc, le programme, les intentions sont là pour faire de l'Inuktitut la première langue d'enseignement, ce qui, pour moi, est la condition sine qua non pour que la langue puisse être la première langue d'usage au Nunavut.
En créant ce programme, Charmaine Okatsiak incarne le changement qu'elle souhaite voir dans sa communauté et ainsi reconstruire des ponts entre les générations. C'était Nelly Guidici.
Et voilà, c'est tout pour vos actualités de la semaine. Notez que Territoire d'Info fait relâche la semaine prochaine. On vous revient sans faute le vendredi 8 octobre. D'ici là, profitez bien de ces premières journées d'automne. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Territoire d'Info vous a été présenté grâce à la généreuse contribution du Fonds canadien de la radio communautaire.